petite boîte, Cédric Adrover.
À l'entrée du centre Galiléo à Peseux, on trouve un plan pour arriver chez notre invité. Alors on suit le parcours, on croise des machines, on croise aussi une crèche, tiens. On monte des escaliers et on arrive dans un grand open space. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Cette citation se trouve sur des sacs dans le hall d'entrée du DITIS. On y voit aussi une table un peu particulière. On s'approche, on se rend compte qu'elle est en papier. Mais en papier, genre un bloc de papier. Vous pouvez griffonner dessus, arracher la table, un bout de table et recommencer. En parlant avec vos collègues, en discutant autour d'un café. Et il y a une salle détente où on peut faire les cons, précise mon invité. Une salle pour travailler debout ou assis, mais plus haut. Un cadre avec du texte sur un mur, ce sont les valeurs de la société. Je demande si je peux les photographier. Une tête sort d'un autre bureau et me répond « Non mais ça va pas, ce sont nos valeurs. » Il rigole. Promis, je les rendrai. Quoique, on en garde une ou deux, comme la réinstauration du droit à l'erreur ou le bonheur contagieux, par exemple. Nous ne sommes pas dans une entreprise de développement personnel, non. Uditis, c'est une société d'informatique, mais l'un peut aller avec l'autre. Et son directeur est notre invité jusqu'à 19h. Bonsoir Michel Perrin.
Bonsoir.
Une entreprise libérante, une façon de gérer que nous évoquerons avec vous dans cette émission. On va également parler de transformation digitale, de la psychologie et de l'informatique. Ça résume votre parcours ?
De l'informatique et ensuite de la psychologie, en effet, oui, tout à fait. Je pense que les deux se marient assez bien.
Dans ce sens-là, qu'est-ce qui vous a donné envie, après des études en électronique, en mécanique, de passer à la psychologie ?
Eh ben, l'informatique, par défaut, c'est du zéro, c'est du un, c'est du noir, c'est du blanc. L'être humain, par défaut, c'est de la zone grise. Et comme c'est des êtres humains qui travaillent avec l'informatique et qui le font, mieux vaut les lier ensemble. Et je pense qu'il est nécessaire de prendre un peu de recul par rapport à cela.
On oppose souvent la psychologie, les sciences humaines, avec l'informatique et les sciences dures. Les mêler, c'est possible ?
Ah, les mêler, c'est tout à fait possible, mais il faut les mêler à la bonne place. Ça veut dire qu'à la fin, l'informatique reste en binaire, naturellement que les travaux doivent être faits d'une façon précise. Mais on peut les faire précis avec le cœur léger.
Dans votre parcours, à un moment donné, vous êtes devenu coach. C'était quoi votre quotidien à cette époque-là ?
À cette époque-là, mon quotidien était dans la direction. Donc on dirige, on conduit. Et puis mes volontés étaient d'accompagner. Donc, il y a une petite thérapie à faire au niveau personnel pour pouvoir se transformer de la sorte.
Être passé, être devenu coach, ça vous apporte quoi aujourd'hui pour diriger une entreprise ?
De prendre peut-être plus de temps d'écoute, d'être plus en accompagnant qu'un dirigeant. C'est déjà un bon vecteur.
Uditis, ça a démarré comment ?
Uditis, ça a démarré avec la volonté d'un groupe. On se trouvait au CSEM dans les années 2000, un tout petit peu avant 2000. Le CSEM, c'était 500 personnes et il fallait imaginer l'informatique et les services informatiques pour splitter ces 500 personnes en 300, 100 et 100, puisqu'il y avait deux spin-offs qui allaient être réalisés. Et ça nous semblait être assez complexe. Comme on avait vécu déjà quelques difficultés parents, enfants, lorsqu'une spin-off quitte la grande maison, on pensait qu'être frère et sœur, ce serait certainement plus facile. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'on a pu développer depuis 2000, puisqu'on a créé la société en 2000.
Le lancement, les premiers temps, c'était comment ? C'était quelle atmosphère ?
C'était le transfert de l'atmosphère qu'on vivait. Si on l'a fait, c'est parce qu'on avait déjà une très forte synergie entre les différents collaborateurs de l'entreprise. On avait une envie. On avait envie de se lancer sur le marché, aller faire du business. On pensait qu'on nous attendrait, on ne nous attendait pas. Donc il a fallu se faire connaître. Il y a eu quand même effectivement quelques complexités au niveau du chemin.
Vous êtes resté lié au CSEM aujourd'hui ?
Oui, on est resté lié. Le CSEM reste notre plus important client. C'est un challenge et c'est une fierté.
Aujourd'hui, si on devait résumer les prestations fournies par votre entreprise, c'est quoi ?
Les prestations, on peut les résumer globalement du câble au clic dans toute la glu des systèmes d'information. Donc que ce soit du serveur, télécommunication, réseau, mobile, portable, votre mobile, votre Natel. Dans l'entreprise, qu'est-ce qui se passe ? Derrière, on a toute une partie plutôt de développement logiciel, développement autour de logiciels de gestion, et puis un outil de service desk que l'on développe.
Du support informatique, en fait.
Support informatique et un outil qui est un outil tiers que l'on développe. Et la transformation numérique, qui est naturellement un cheval de bataille actuel.
Alors cette transformation numérique, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, ça reste quelque chose d'assez obscur pour passablement de monde. C'est quoi la transformation numérique aujourd'hui ?
Ben, je dirais que c'est La transformation numérique, est lancée. Elle est lancée par la société. Et les entreprises essayent simplement d'en faire du business. Mais elle est lancée par la société. Nos enfants, on leur parle, ils ont dans une main un téléphone portable, ils regardent la télévision, ils ont l'ordinateur allumé et ils réussissent à nous parler. Donc eux, ils ont déjà compris comme quoi le monde, il était connecté, le monde, il était interconnecté. Cette transformation numérique, c'est de réussir à interconnecter l'ensemble des matériaux et des objets qui ont la nécessité d'être interconnectés pour pouvoir les suivre, pour pouvoir les utiliser, pour pouvoir les exploiter à bon escient.
Aujourd'hui, concrètement, dans les PME, dans le tissu économique, quelles sont les entreprises qui sont particulièrement touchées par ça ?
Je pense toutes les entreprises.
Toutes, même.
Toutes les entreprises. Il y en a des qui ont déjà beaucoup d'avance, il y en a des qui ont pris un petit peu de retard, mais toutes les entreprises sont directement touchées. Maintenant, ce n'est pas des chantiers pléthoriques. Il faut commencer par des petites vagues, il faut commencer par des choses simples. Il faut s'occuper de l'humain en même temps que la transformation numérique.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'au niveau du travail, il peut y avoir des mutations au niveau de notre activité. Et ça, il est nécessaire de le transformer correctement et de le prendre en considération.
Aujourd'hui, les petites entreprises, ce sont celles qui ont le plus de peine à prendre ce contour, à prendre ce virage, selon vous ?
Ça dépend tout à fait le métier. Et ouais. Ça dépend tout à fait aussi la nature des associés et des entrepreneurs.
Quels sont les plus gros défis qui sont posés par cette période, par cette transformation numérique ? Vous faites de l'accompagnement. Concrètement, vous répondez à quel problème ?
Disons, les plus grands défis, c'est la résistance de l'humain. C'est les plus grands défis, parce que la technologie avance plus vite que notre résistance au changement. Ça, c'est des défis.
Ça veut dire que vous avez aujourd'hui des entrepreneurs qui vous disent « Non, mais ça, j'en veux pas, j'en ai pas besoin. »
C'est même nous qui leur disons « Attention au tempo. »
Ah, oui.
Parce que tout compte fait, la technologie peut se déployer relativement rapidement, et puis malheureusement, nos comportements, ou heureusement, certaines fois, ont un peu de résistance.
Oui. Le fait du développement de logiciels également dans vos activités, c'est un marché porteur aujourd'hui pour vous, ça ?
Oui, c'est un marché qui est tout à fait porteur. Pourquoi ? Parce que tout compte fait, derrière toute cette technologie, il faut la faire danser. Donc, il faut la faire communiquer. On a besoin d'avoir des réductions souvent d'informations. Regardez votre boîte aux lettres, votre boîte messagerie, la quantité de messages que vous recevez. Et je suis certain que vous en lâchez quelques-uns par inadvertance parce qu'ils sont simplement trop nombreux. Donc, on doit aussi réussir à raréfier l'information.
Ouais, donc, en fait, on a des systèmes aujourd'hui qui nous permettent de communiquer de plus en plus facilement. Et vous jouez un rôle pour réduire, entre guillemets, intelligemment la communication ?
Tout à fait, parce qu'on est des petites bêtes, je dirais, qui pouvons accepter une certaine quantité de données, une certaine quantité d'informations. Et de ce fait-là, il est nécessaire un peu de se protéger aussi. Et naturellement, un autre défi reste tout l'aspect sécuritaire, puisque chaque jour, on entend de nouvelles infractions au niveau de l'aspect sécuritaire.
On y reviendra tout à l'heure sur la sécurité. Un mot peut-être sur le marché. Vos clients, aujourd'hui, ils viennent d'où ?
Alors, naturellement, partant du CSEM, qu'est-ce qu'on a fait ? C'est qu'on est déjà allé dire bonjour à tous ceux qui travaillent et qui rayonnent autour du CSEM. Et ça veut dire que le marché horloger était naturellement porteur au niveau du départ. Et ensuite, on a pu se développer autant dans le tertiaire que dans le monde industriel. On touche même le primaire, ce qui est tout à fait étonnant, mais je pense que le primaire a encore de belles cartes à jouer vis-à-vis du monde de l'Internet de l'objet.
Vous avez quelques exemples ?
Typiquement, vous pouvez imaginer dans le cadre d'un champ, de pouvoir mettre des petits objets pour mesurer l'humidité avant d'arroser pour arroser, des éléments de ce type-là, et beaucoup d'entités sont en train de travailler sur ces sujets.
Une des particularités de l'entreprise, au-delà de son savoir-faire technique, c'est la gestion. On va en parler ensemble, mais d'abord, visitons, si vous le voulez bien. On va retrouver Joël Picromain avec Johan Genet. Ils sont dans le hall d'accueil de l'entreprise, autour de cette fameuse table, pas comme les autres.
Sortie de boîte.
Alors oui, elle est particulière, c'est une table millefeuille. Donc cette table, comme vous dites, on peut boire un café. Puis quand on boit un café, c'est un peu le but de ce coin, c'est que les bonnes idées naissent autour des cafés. Donc on s'est dit qu'on va mettre une table comme ça pour boire le café. Et puis si vous avez une bonne idée, on va l'écrire. Vous pouvez déchirer le bout de papier, le garder et puis y réfléchir ensuite après. Voilà, c'est pour aider à ce que les idées arrivent autour d'un café. Vous avez du support pour vous aider.
Donc là, ça veut dire, si je comprends bien, que la forme de l'entreprise, la forme des locaux, influence énormément le fond du travail.
Alors en tout cas, c'est pour favoriser, on va dire, l'ouverture d'esprit, l'innovation, ne pas tomber dans une routine. Dans l'informatique, On travaille constamment avec des solutions qui sont innovantes. Donc, on met en place les outils pour que nos employés puissent être innovants, puissent être adaptés au changement, qu'on soit dynamique, parce qu'on veut que ça se retrouve dans les prestations qu'on propose à nos clients.
Alors, on s'est arrêté ici à l'entrée, parce que j'avais déjà plein de questions à vous poser. Vous me proposez d'aller visiter un petit peu les locaux. Je vous suis. On va par où ?
On commence par là. Dans le fond, vous allez voir, il y a l'ancienne salle de la direction. Donc, c'était notre ancien directeur général qui était ici, dans son bureau à lui. On l'a privé de son bureau maintenant, le pauvre. Et puis, vous allez voir, il y a un coin détente juste à gauche aussi.
On commence par où ?
Coin détente.
Coin détente, mais ça a l'air de bosser au coin détente.
Alors, c'est détente formelle, des fois. Oui, il y a un coin pour jouer au golf, si vous voulez jouer au golf. Et puis, si vous voulez avoir une relaxation plutôt décontractée, une petite séance, voilà, un peu pour vous détendre les neurones, bah, vous pouvez vous asseoir là et puis brainstormer entre collègues.
Avec des sofas, des poufs, le côté espace de détente, même s'il sert à bosser.
Oui, parce que des fois, on a un long document à lire, vous ne voulez pas rester à votre bureau, il y a du bruit autour de vous, bah, autant aller venir dans le canapé et puis se poser et puis lire les 50 pages que vous devez lire. Alors là, vous avez la salle avec les tables hautes. Quand on bosse dans l'informatique, on est tout le temps assis. Donc c'est aussi agréable de pouvoir travailler une fois debout, une fois assis. Elle se règle en hauteur. C'est électrique, vous n'avez rien à faire. Donc ça change un peu de la position traditionnelle assise.
Sortie de boîte.
De retour dans notre studio de Marin avec Michel Perrin, le directeur de DITIS, dans une position traditionnelle assise. Du coup, on est désolé, hein, chaise toute simple. Vous pourrez réentendre une version longue d'ailleurs de ce reportage de Joël Picromain sur notre site internet. On a entendu le soin que vous mettez à donner des conditions de travail stimulantes à vos employés. Alors après, on parle beaucoup de sofa, de bien-être, de golf, mais ça bosse un peu chez vous quand même.
Ouais, ça bosse. Non, je vous assure.
C'est pas incompatible en fait.
Absolument pas.
On ne s'agit pas uniquement que d'aménagement de locaux, vous souhaitez devenir une entreprise libérante, de quoi s'agit-il ?
De quoi s'agit-il ? Alors, vous avez deux modèles, une entreprise dite hiérarchique, qu'une entreprise avec des dirigeants qui conduisent, puis une entreprise libérante qui tend vers la libération, donc une entreprise qui est dans laquelle il y a des leaders qui accompagnent. Et les leaders sont juste responsables, tout compte fait, du sens et du maintien du sens de l'entreprise ainsi que de ses valeurs. Mais à quoi sert qu'un chef, parce qu'il a un titre, prennent des décisions en face de choses qu'un collaborateur est susceptible de connaître, de faire, donc de pouvoir décider. C'est une hérésie, j'ai l'impression que depuis des années, le modèle de l'entreprise hiérarchique, on marche sur la tête.
On ne peut pas dire que c'est un modèle qui a fait ses preuves, parce que c'est vraiment un modèle très répandu quand même, ce modèle hiérarchique.
Oui, c'est un modèle très répandu. Quelques militaires vous diront que c'est un modèle qui a de l'avenir, et c'est un choix.
Les avantages de ce modèle d'entreprise libérante, c'est quoi ?
Les avantages, c'est quand vous êtes une société de service, tout compte fait, la mission de nos collaborateurs, c'est d'aller chez des clients. C'est de revendre chez les clients ce qu'ils savent faire. Quoi de mieux que d'être engagé, d'être responsable et autonome pour le faire ?
Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous, ce que vous souhaitez, c'est que les gens que vous envoyez chez les clients, ils soient tout aussi informés, tout aussi vendeurs, communicants, que le patron pourrait l'être.
C'est totalement naturel et c'est totalement normal. Le patron prend des vacances quand il est en vacances. Il y a des collaborateurs qui continuent de fonctionner.
Il y a des avantages très concrets dans la gestion. Vous me donnez, par exemple, un exemple avec des notes de frais. Est-ce qu'on peut le donner, celui-là,
pour qu'on comprenne ? Oui, on peut le donner, tout à fait.
Pouvez-nous l'expliquer ?
Je vous l'explique très rapidement. En tout compte fait, on avait une croissance de notes de frais suite à l'achat d'une société. On s'est posé quelques questions. Et puis on s'est dit, oh, notre règlement de frais, il n'est pas assez précis, on va y mettre encore une adjonction. Et après avoir fait l'adjonction, je me suis dit, on va vraiment dans le mur, parce que tout compte fait, à chaque règlement, on va essayer de le contourner. Donc autant se reposer la question de base, à quoi sert une note de frais ? À me défrayer. On le fait avec confiance, respect, éthique. Et de ce fait-là, on a posé un guide d'utilisateur pour faire les notes de frais. Et puis, on a décidé hier, comme quoi on allait faire quand même quelques contrôles. Et les contrôles, c'est que tous les 3 mois, on fait des tirages au sort parce qu'on reçoit quelques goodies à gauche et à droite. Puis, dans le tirage au sort, il y aura un tirage au sort de se faire inspecter sa note de frais. Pourquoi pas ?
Quand on veut appliquer ce genre de théorie, passer d'une entreprise traditionnelle à une entreprise libérante, comment se fait la transition ? C'est quoi les difficultés ?
Il faut accepter la lenteur des choses. Il faut accepter que ça prenne du temps. Il faut accepter qu'on apprenne à transformer notre posture. Et je pense que c'est un temps en amont déjà au niveau des associés et de la direction. Donc il y a un travail à faire au niveau des associés. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait une formation de coach, mais ça fait 2 ans que j'ai fait une formation de coach. Donc c'est une transformation qui est lente avant d'en parler. Puis ensuite, il faut faire quelques expériences, puis il faut écouter le résultat de ces expériences, et puis il faut se dire qu'on a le temps pour aller là où on ne sait pas exactement où on va.
Abandonner du pouvoir, c'est un peu un abandon de pouvoir, en fait, en quelque sorte. Ce que vous proposez, c'est difficile pour un entrepreneur aujourd'hui.
Non, le pouvoir, c'est lourd. Les responsabilités, c'est lourd. Surtout les responsabilités sur lesquelles vous n'êtes pas compétent. Donc c'est très agréable de se distribuer les différentes responsabilités. Le leader reste engagé. Le leader a la grande responsabilité, tout compte fait, de la finance de l'entreprise. Donc il reste cette responsabilité, mais partager les responsabilités, partager l'engagement, partager cette autonomie, mais c'est un rêve.
C'est quelque chose qu'on entend souvent chez les entrepreneurs, chez les dirigeants, face à un problème, face à des difficultés, on est souvent seul. Est-ce que gérer de manière un peu plus horizontale, ça coupe cette solitude ?
Je pense qu'on peut couper la solitude. Et cette posture, je l'ai retrouvée fréquemment pour moi-même, ouais. Me retrouver seul.
Et aujourd'hui, c'est plus le cas ?
Je pense qu'on est dans la transformation. Il faut juste admettre comme quoi il y a encore des échéances. J'ai de temps en temps des réflexes, des vieux réflexes qui reviennent. Donc, soyons très très clairs. On commence et on fait un long apprentissage.
Ça va prendre combien de temps ?
De toutes les lectures que l'on peut croiser, je pense qu'il faut se donner un temps de 3-4 ans pour qu'on puisse bien avancer.
Et les réactions du côté des collaborateurs, ils sont surpris au départ, ils apprécient, ils sont déstabilisés.
Je pense qu'il existe chaque réaction en fonction de chaque collaborateur. Je sens beaucoup d'enthousiasme, je sens beaucoup de collaboration, beaucoup de volonté, beaucoup d'exigence aussi.
Pour revenir un peu sur votre domaine d'activité, vous avez évoqué tout à l'heure un peu la sécurité. C'est vrai que c'est un défi qui touche beaucoup d'entreprises. Il y a des piratages massifs qui sont de plus en plus médiatisés d'ailleurs, dernièrement WannaCry. Ça vous amène de nouveaux clients ?
Alors ça nous amène de nouveaux prospects dans un premier temps, parce qu'il est nécessaire de leur donner de l'information. On vient de faire 3 jours d'information au sujet de la sécurité du système d'information. Et bien cette sécurité, elle est quand même devenue très très complexe, parce qu'elle est totalement transversale dans l'entreprise. On ne peut plus l'isoler uniquement au monde de l'informatique. Donc il est nécessaire d'embarquer dans cette réflexion sécuritaire autant la gouvernance, la direction opérationnelle que l'informatique. Donc c'est quelque chose qui devient vraiment très très complexe. C'est une lame de fond aussi profonde que celle de la transformation digitale.
Aujourd'hui, on peut se protéger contre les dangers, contre les virus, contre les piratages, c'est possible ?
Oui, on peut faire un effort de protection important. Ça veut bien dire on peut faire un effort de protection important, il y restera toujours certaines failles. Et là, il y a autant de gens qui travaillent pour combler les failles que pour en trouver de nouvelles. Donc on est dans un système à risque. Et puis, il est nécessaire de le comprendre. Et surtout, c'est ça qui est important, c'est de savoir quel est le risque que je prends et quel est le risque que je suis prêt à appréhender.
Il y a un moment où le mieux est l'ennemi du bien, où trop de sécurité, ça peut paralyser l'entreprise.
Très certainement, comme dans à peu près tout ce qu'on fait.
Donc il faut trouver vraiment, c'est une question de dosage.
Il faut trouver le bon dosage.
Un système fermé et sûr, ça peut parfois donc être un handicap.
Mais c'est une certitude que dans un monde connecté, vous ne pouvez plus vous fermer.
Comme une montre mécanique au lieu d'une smartwatch, par exemple. En voilà une bien ancienne de montre mécanique et une bien mythique dans notre chronique horlogère du jour. On retrouve Marie-Lise Saillard sur un rocher.
Pile à l'heure.
C'est bientôt les vacances, alors aujourd'hui, on voyage, on met le cap sur le sud. On part dans un endroit où les Ferrari, les Lamborghini et les Rolls-Royce sont aussi banals que les nuages dans un ciel d'automne en Bretagne. L'endroit du monde où la densité de population est la plus importante, près de 18 700 habitants au kilomètre carré. Nous sommes sur le rocher, nous sommes dans une principauté située dans le sud de la France. C'est là que vit
Stéphanie de Monaco.
Monaco et son célèbre quartier de Monte Carlo, où se trouve le casino. Monaco célèbre aussi pour son Grand Prix de Formule 1. C'est justement à cette course automobile que fait référence la montre de la marque suisse Heuer, qui porte le nom de la principauté, Monaco, et qui est présentée en 1969. Innovation technique, à l'époque, c'est le premier mouvement chronographe automatique avec micro-rotor et son boîtier carré est étanche. Ce chrono devient légendaire 2 ans plus tard lors de la sortie du film Le Mans, tourné en 1970. La montre Monaco est alors au poignet du héros du film Michael Delaney, pilote automobile interprété par l'acteur américain Steve McQueen. Ce personnage est d'ailleurs directement inspiré du pilote suisse Joe Cipher. Cette montre, précisément celle que porte Steve McQueen dans Le Mans, se trouve aujourd'hui à La Chaux-de-Fonds, dans le musée Tag Heuer. Elle est accompagnée d'un certificat qui prouve que ce modèle, numéro de série 1133, est bien celui qui a servi pour le tournage. Le certificat est signé de la main de Donald Nunley, qui a marché dans les pas de son père dans l'industrie cinématographique. L'Américain a ensuite créé la toute première agence de placement produit à Hollywood. C'est par exemple à lui que l'on doit le fait de voir E.T. boire de la bière Coors.
E.T. Enfin.
Et c'est aussi à son agence que l'on doit le fait de voir Tom Cruise porter des lunettes de soleil Ray-Ban dans Top Gun.
Pile à l'heure.
Et le temps qui est passé presque aussi vite que ce F-14 Tomcat de Tom Cruise. On le passe ce temps avec le directeur d'Uditis, Michel Perrin. Avant de prendre congé avec vous, un mot peut-être sur l'évolution de l'entreprise, de l'informatique en général. On a l'impression que c'est un domaine qui se révolutionne tout le temps, qu'on n'est jamais tranquille. Comment on fait pour rester à jour ?
Alors ça, c'est une des grandes difficultés. Il faut faire des choix entre les modes et les nouveaux paradigmes. Mais ça, ça reste très très complexe. Donc il faut avoir le droit de se tromper. Mmh. Et puis je pense qu'il faut donner surtout aux collaborateurs une certaine assise. Parce que nous avons besoin d'une certaine stabilité. Et du moment où le métier est en perpétuel changement, l'assise au niveau de l'entreprise, la fidélité des collaborateurs, le lien qui peut se tisser est essentiel à la conduite de l'entreprise. Maintenant, il est clair que quand on regarde tout ce qui est en train de se passer, inévitablement, les sociétés d'informatique ont de beaux jours devant elles.
Alors aujourd'hui, si on vous demande de vous mouiller un petit peu dans l'informatique d'aujourd'hui, si on vous demande un paradigme d'avenir et une mode sans avenir, vous diriez quoi ?
Ah, c'est intéressant. La mode sans avenir, j'aurais peut-être de la peine à vous le dire, mais les paradigmes d'avenir, je pense qu'on l'a dit, hein, la transformation numérique, la problématique sécuritaire, le monde de l'Internet, de l'objet, de tout connecté, le temps en temps déconnecté, le temps en temps oser quitter ce monde-là, me paraît être quand même des éléments sur lesquels on devra en même temps se protéger, en même temps en profiter.
C'est amusant que vous mettiez le fait de devoir se déconnecter dans l'avenir de l'informatique.
Mais moi, je trouve quand même que c'est quelque chose d'assez intéressant.
Et du coup, vous, au niveau de la société, au niveau plus interne, vos prochains challenges, les prochains défis à court terme, c'est quoi ?
Je pense que vraiment, c'est accompagner nos clients et de nouvelles PME dans le monde sécuritaire et de la transformation numérique.
Oui, une diversification en vue ?
Je dirais pas de grande diversification. Continuons d'être forts là où on sait l'être, parce que c'est là où les clients nous ont fait confiance et on a besoin de les accompagner encore durant un certain temps.
Vous avez des bureaux à Genève, sauf erreur, des locaux à Genève ?
Tout à fait.
Vous voulez un peu vous étendre ? Il y a des projets dans ce sens-là ?
Écoutez, les projets d'extension sont relatifs pour l'instant. Il est nécessaire d'absorber déjà la société qu'on a rachetée il y a une année et demie. Et il est nécessaire de continuer, je dirais, notre expansion déjà régionale. Et
un mot pour terminer. 17 ans pour une entreprise d'informatique, c'est long, hein, 17 ans. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans l'évolution de l'informatique en 17 ans ? La plus grande baffe que vous avez prise ?
La plus grande baffe ? Difficile au niveau de la baffe, je dirais. Les plus grands challenges, c'est qu'on a l'impression que les technologies avancent très très vite pour quand même traiter les mêmes sujets.
De plus en plus vite en plus.
Et de plus en plus vite.
Bon,
voilà. On le fait avec énormément de plaisir.
Et on espère que vous trouvez le temps parfois de vous poser, mais à vous entendre, vous avez l'air de trouver ça important.
De me poser,
oui,
c'est une certitude.
De déconnecter.
C'est la raison pour laquelle je suis là.
Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Michel Perrin, d'avoir été notre invité ce soir. Bonne soirée à vous. La semaine prochaine, Sortie de boîte se rendra du côté de Moutier. Alors il ne sera pas question d'une certaine votation, non, mais de plasturgie, de capot de machine, de moule à ski. Tout un programme, ce sera avec l'entreprise INR SA. Son directeur Franck Mijon sera notre invité. Très bonne soirée à toutes et à tous.